Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, une nouvelle poubelle pour le nucléaire français. C'est la centrale de Belleville dans le Cher qui aurait été choisie par EDF pour entreposer des milliers de tonnes de matériaux radioactifs. Les travaux pourraient durer 15 ans. Une ordonnance, mais pas de carnet de chèque pour l'hôpital. Le gouvernement annonce aujourd'hui les grandes lignes de la réforme du système de santé. Le mode de financement des hôpitaux pourrait être revu et l'ouverture des maisons de santé encouragée. La belle moisson des Bleus, cette nuit aux Jeux de Pyeongchang, Alexis Pinturault décroche l'argent en combiné, suivi de près par un autre Français, Victor Muffat-Jandet, qui lui décroche le bronze. On ira sur place évidemment retrouver Franck Ballanger. Dans 20 minutes, un autre rendez-vous, cette fois pour tous les amoureux des livres. C'est la romancière Leïla Slimani qui sera votre invitée, Nicolas, puisque c'est elle qui cette année présidera le jury du prix du Livre Inter.
Et vous pourrez dialoguer avec elle vers 8h40. Vos questions à Madame la Présidente au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, le président sud-africain Jacob Zuma, tout près de la sortie, son parti, l'ANC, lui laisse 2 jours pour démissionner. En France, la contre-attaque de Nicolas Hulot, il porte plainte pour diffamation contre le journal qu'il accuse de violence sexuelle. Et puis les voix du Seigneur et celles de la science face à face. Sur quelle base scientifique l'Église de France s'est-elle appuyée pour décerner le titre de 70e miraculé de Lourdes à une religieuse? On se posera la question. Et voilà une piscine dont on n'a pas fini de parler. C'est le magazine spécialisé Reporter qui le dévoile ce matin. EDF aurait trouvé un nouveau point de chute pour stocker ses déchets nucléaires. Le site de la Hague étant presque rempli. C'est la centrale de Belleville-sur-Mer dans le Cher qui aurait été choisie à 2 pas des vignobles du Sancerre et du Pouilly-Fumé. C'est donc là qu'une immense piscine d'entreposage pourrait voir le jour. De quoi stocker sous l'eau plus de 6000 tonnes de déchets radioactifs. Karl de Châtre.
Et d'après cette enquête, c'est la saturation du centre de la Hague qui pousse EDF à chercher un nouveau site de stockage, notamment pour son MOX usagé. Le MOX, ce mélange de plutonium et d'uranium, qui après usage devient un des déchets nucléaires les plus dangereux, jusqu'à 7 fois plus chaud et plus radioactif que du combustible classique. EDF ne le retraite d'ailleurs pas, mais le laisse se refroidir et se désactiver pendant des décennies dans d'immenses piscines. Et pour ça, Belleville a des atouts intéressants. Position centrale en France, réserve foncière importante pour creuser la piscine géante et desserre certes ferroviaire directe pour assurer le transport aussi sûr que possible de ce matériel hautement sensible. Tellement sensible qu'une omerta absolue semble régner autour du projet. EDF n'infirme ni ne confirme les informations de nos confrères. Côté élu, contacté, c'est le silence radio ou l'ignorance. Étonnant aux yeux du rédacteur en chef de Reporter, Hervé Kempf, compte tenu de l'importance économique, environnementale et sociétale de ce projet.
Karl de Châtre, France Bleu Berry, toujours d'après le magazine. Il faudra 15 ans pour construire cette nouvelle super poubelle nucléaire à Belleville-sur-Loire, dans le département du Cher.
À la une également, cette question, Marc, comment soigner l'hôpital?
On sait que la fièvre monte ces derniers mois parmi les personnels et ce matin, le gouvernement va livrer son premier diagnostic. C'est toute l'offre de soins qu'il entend moderniser. Ainsi, les hôpitaux ne seraient plus rémunérés uniquement en fonction des actes médicaux qu'ils pratiquent. Pour éviter l'embouteillage à l'entrée des hôpitaux, on compte aussi sur les maisons de santé. Elles sont 1 millier aujourd'hui en France. Reportage dans l'une d'entre elles à Paris. Daniel Messager.
La maison de santé Pyrénées-Belleville accueille une centaine de patients par jour. Certains font régulièrement des séjours à l'hôpital. Entre généralistes et hospitaliers, les informations circulent. Le docteur Maddy Donande, créatrice de cette maison.
Pour nous, c'est capital ce lien. Aujourd'hui, dans les maisons de santé, on travaille de plus en plus en équipe. Nous, ici, on a mis ça en place avec un petit hôpital du quartier, l'hôpital de la Croix-Saint-Simon. On a des patients très lourds à domicile. Et donc, ce travail avec l'hôpital, il est essentiel.
Thierry est un habitué. Il consulte indifféremment l'un des 5 médecins.
Tous connaissent notre dossier. Ils sont à même de nous orienter vers des spécialistes. Ça peut éviter aussi l'engorgement des urgences. La plupart des gens qui se présentent d'eux-mêmes aux urgences, c'est des soins qui pourraient être dispensés par des médecins généralistes dans une maison de santé.
La maison de santé est le premier recours, mais il est essentiel que le deuxième, l'hôpital, fonctionne bien. Et actuellement, c'est difficile.
Aujourd'hui, on a un hôpital en souffrance et nous, en ville, on le ressent. C'est-à-dire, si je suis des patients très lourds et qu'au moment où j'ai un besoin urgent, ils n'ont pas de lit et me disent « qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai pas de lit », c'est pas possible. C'est-à-dire, ce travail à flux tendu de l'hôpital retentit sur nos pratiques en ville.
Et si l'hôpital ne répond plus, ce sera alors l'échec du virage ambulatoire que souhaite pourtant prendre la ministre de la Santé.
Il avait déminé la semaine dernière, il contre-attaque. Aujourd'hui, Nicolas Hulot va porter plainte contre le magazine L'Hebdo, qui dans son dernier numéro l'a mise en cause pour des violences sexuelles. Une plainte pour diffamation sera déposée cette semaine pour le ministre Cyril Graziani. C'est aussi une façon de tenter de tourner la page.
S'il a décidé de porter plainte, c'est dans la logique des choses. L'inverse serait incompréhensible, ministre, l'entourage de Nicolas Hulot. Quand vous êtes accusé à tort par la rumeur et le mensonge, poursuit-on, le seul recours que vous avez face à un média, c'est la plainte en diffamation. Nicolas Hulot a décidé de mener ce combat pour la vérité. De démission, il n'en est pas question. Tout départ du gouvernement, suite à cet article, serait perçu comme un aveu de culpabilité, analyse un vieil ami. Après un week-end où il s'est ressourcé en famille, le ministre à la transition écologique a retrouvé Paris hier matin pour se reconcentrer sur son portefeuille, car depuis une semaine, ces accusations ont mobilisé quasiment toute son attention et son énergie. Là, son agenda de la semaine est rempli, 21 rendez-vous officiels, une activité de ministre normale glisse un de ses proches. Au programme notamment, un tête-à-tête ce matin avec Emmanuel Macron, prévu de longue date. L'après-midi, le ministre rejoindra les bancs de l'Assemblée pour la traditionnelle séance de questions au gouvernement, en espérant que cette histoire sera désormais derrière lui.
Voilà pour Nicolas Hulot. Quant à Gérald Darmanin, accusé de viol et visé par une enquête préliminaire, ce qu'il dément lui aussi. Il a été entendu hier en audition libre par la police. En Corse, Charles Pierry, convoqué aujourd'hui chez les gendarmes. Le rendez-vous est fixé à 10h ce matin. L'ancien leader du FLNC est soupçonné d'avoir injurié la veuve du préfet assassiné Claude Erignac dans un message posté sur Facebook. Ses soutiens ont prévu de se rassembler devant la gendarmerie. C'est l'une des affaires qui a relancé le débat sur l'âge du consentement sexuel en France. Un homme de 28 ans est jugé aujourd'hui à Pontoise pour avoir eu une relation sexuelle avec une fillette de 11 ans. La famille de la victime avait porté plainte pour viol, mais c'est pour atteinte sexuelle qu'il comparaît aujourd'hui. Le parquet ayant estimé que la relation était consentie, il risque donc 5 ans de prison, là où la peine maximale pour viol est de 20 ans.
Il est 8h07, Marc, le réquisitoire est sévère et il pourrait bien conduire la poste devant un tribunal.
Le parquet de Nanterre a requis hier le renvoi de l'entreprise en correctionnel dans une affaire de sous-traitance. C'est la mort d'un coursier en 2013 qui avait lancé l'enquête. Il s'était noyé en tentant de récupérer un colis tombé dans la Seine à Paris. L'homme n'était pas déclaré par le sous-traitant qui l'employait. Et pour les syndicats qui ont saisi la justice, il n'est pas et de loin un cas isolé. Hélène Philly.
Seydou Bagaga travaillait pour DNC Transport, un sous-traitant de la Poste, depuis 10 jours, sans contrat. En Île-de-France, la livraison de colis est aujourd'hui massivement confiée à des prestataires de services, au détriment des salariés, dénonce Thierry Lagoutte pour Sud PTT, partie civile dans ce dossier.
La Poste a mis en place un système d'ultra-précarité en faisant appel à des travailleurs très précarisés. Elle paye seulement aux colis livrés, qui entraîne une course à la concurrence entre les entreprises sous-traitantes qui font en sorte d'avoir le prix le plus bas pour avoir le marché, ça incite à faire une course vers le bas et au placement du colis à tout prix.
Des charges de travail plus importantes, peu ou pas de formation, le parquet estime que la Poste porte préjudice aux salariés de ses sous-traitants, privés des dispositions protectrices d'un contrat maison. Il y a tout de même des obligations de contrôle tous les 3 ou 6 mois et elles sont respectées, affirme l'avocat de la Poste, maître Hervé Léman.
Cette vérification périodique, la Poste l'a fait. Mais la Poste n'a pas à aller vérifier chaque jour qui est dans le camion du sous-traitant. On ne fait pas un contrôle d'identité tous les jours pour dire « dites donc monsieur, là vous êtes dans le camion du sous-traitant, est-ce que vous êtes déclaré, etc. etc. » Si la Poste faisait ça, alors là effectivement, ce serait du prêt de main d'œuvre, parce que ça voudrait dire qu'elle se comporterait comme l'employeur de ces personnes-là.
Le dossier est maintenant dans les mains du juge d'instruction qui doit décider ou non du renvoi en correctionnel de la Poste.
Il avait échappé de peu à la faillite il y a un an. Le groupe Solocal, qui édite notamment les pages jaunes et Mappy, s'apprête à tailler dans ses effectifs. C'est une information France Inter. 1 millier d'emplois menacés, soit le quart des effectifs. L'annonce devrait être faite aujourd'hui lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. Le conflit des éleveurs est-il en train de s'étendre? Partie des fermes du sud-ouest, il gagne désormais d'autres régions. Manifestation ce matin dans le Loiret avec une opération escargot en cours sur l'A10. Hier, c'était dans le Cher et l'Indre-et-Loire. Là aussi, les agriculteurs estiment que la nouvelle carte européenne des zones défavorisées pourrait faire perdre à certains d'entre eux jusqu'à 10 000 euros par an.
Fumée blanche à Beauvais ce matin.
Oui, ce n'est pas un pape qu'on attend, mais une miraculée, sœur Bernadette Moriot, religieuse française franciscaine de 79 ans que l'Église catholique vient de reconnaître comme étant la 70e miraculée de Lourdes. Elle affirme qu'elle a recommencé à marcher normalement après un pèlerinage il y a 10 ans. Elle qui se déplaçait en fauteuil roulant, elle aurait entendu une voix intérieure lui disant de retirer son corset et son attelle. C'est l'évêque de Beauvais qui en avait fait l'annonce avant-hier. Il sera présent à ses côtés ce matin pour une conférence de presse. Alors miracle ou mirage, quelle crédibilité accordée à cette affaire? Géraldine Allot a tenté de lever le voile.
En tant que médecin et scientifique, on ne parle pas de miracle. On parle de guérison inexpliquée.
Le docteur Patrick Tellier se décrit comme un scientifique cartésien. En 2008, ce médecin généraliste de Pau était directeur du bureau des constatations médicales à Lourdes. C'est lui qui a instruit le dossier de sœur Bernadette Moriot.
Moi, j'ai pressenti que ça irait loin, cette histoire. Parce que quelqu'un qui souffre depuis 40 ans de façon aussi importante, avec tant de lésions et de handicaps, qui disparaissent d'un seul coup, c'est vraiment très étonnant.
Aujourd'hui, le docteur Tellier l'avoue, en tant que médecin, il ne peut fournir aucune explication crédible à cette guérison.
Mais moi, je pense que c'est du niveau de l'immatériel ou de l'énergétique. On ne peut pas le déceler par les moyens médicaux ordinaires. Le corps humain, ce n'est pas que du physique et de la biologie. On a tous une âme, que cette âme peut provoquer à un moment donné une guérison que nous, médecins, avec nos critères à nous, qui sont quand même encore très matérialistes, on ne peut absolument pas comprendre.
Même les scientifiques américains s'interrogent. Pour la rhumatologue Esther Sternberg, ce type de guérison pourrait s'expliquer par l'atmosphère de compassion qui règne à Lourdes. Elle aurait des vertus bénéfiques sur le système immunitaire.
Géraldine Allot, 8h11, 48 heures pour faire ses cartons.
En Afrique du Sud, l'ANC, le parti de Mandela, met encore un peu de plus la pression sur le président Jacob Zuma, miné par les affaires de corruption. Il exige qu'il quitte le pouvoir d'ici deux jours s'il veut éviter l'humiliation d'une procédure de destitution. À Johannesburg pour Inter, Lisa Fabian.
La réunion du comité exécutif de l'ANC devait être brève. Elle a finalement duré plus de 13 heures. Un véritable marathon pour décider de l'avenir du président Jacob Zuma. En pleine nuit, les dirigeants du parti majoritaire se seraient finalement mis d'accord pour rappeler le chef de l'État et demander sa démission dans les plus brefs délais. Vers 22h30, Cyril Ramaphosa, le président de l'ANC, s'est rendu en personne jusqu'à la résidence présidentielle à Pretoria, probablement pour informer Jacob Zuma de cette décision. Le président de l'ANC est ensuite retourné auprès du comité exécutif du parti qui a achevé sa réunion à 3h du matin. On attend maintenant de savoir si Jacob Zuma acceptera enfin de quitter le pouvoir de lui-même ou s'il cherchera encore à gagner du temps coûte que coûte. S'il refuse de partir rapidement, l'ANC devra faire appel à ses députés et voter la destitution du président au Parlement. Johannesburg, Lisa Fabian, France Inter.
Direction les Jeux Olympiques de Pyeongchang, à présent avec l'une des épreuves reines du ski alpin. Cette nuit, c'était le combiné chez les hommes. Richard Vivian, vous l'avez suivi pour nous. Il a souri aux Français. Ils sont deux ce matin sur le podium. Derrière l'Autrichien Marcel Hirscher.
Sacré Marcel Hirscher, hein, qui vient priver les Français d'un bonheur total. Mais allez, on va pas faire la fine bouche. Ils sont deux effectivement sur le podium. La médaille d'argent pour Alexis Pinturo, la médaille de bronze pour Victor Muffat-Jeandet. Voilà les deux Frenchies derrière l'Autrichien, superstar du ski qui lui décroche l'or. C'est comme ça, il faudra s'y habituer peut-être dans ces Jeux Olympiques. Alexis Pinturo termine avec 23 centièmes de retard sur Marcel Hirscher. Mais en tout cas, c'est une superbe performance parce que ça fait quand même 70 ans qu'on n'avait plus vu un tricolore sur un podium olympique dans cette discipline du combiné alpin. Alexis Pinturo a expliqué il y a quelques instants à l'un de ses entraîneurs eh bien, qu'il était content, qu'il était fier de cette médaille. Maintenant, cette médaille d'argent va certainement le libérer. Il reste encore deux courses pour Alexis Pinturo, le géant et le slalom. Pourquoi pas d'autres médailles. Mais en tout cas, ça y est, le compteur des alpins est ouvert. Et cela dès la première épreuve hein, parce que eh bien, le géant féminin et la descente ayant été reportée, eh bien ce combiné alpin, c'était la toute première épreuve de ski donc ici au JO de Pyeongchang.
Merci Richard Vivian. La France qui compte ce matin 5 médailles depuis le début des Jeux. Et puis ces Jeux sud-coréens ont également leur premier dopé. Un patineur de vitesse japonais testé positif à un produit masquant. Il a été aussitôt exclu de la compétition. Enfin, on n'y gagne pas de médailles, mais juste le plaisir de lire et de faire découvrir les auteurs qu'on a aimés. Le prix du Livre Inter sera décerné comme chaque année au début du mois de juin. Et on en connaît depuis ce matin la présidente du jury. Bonjour Eva Bettan.
Bonjour.
C'est toujours pas vous, hein, mais ça viendra. C'est la romancière Leïla Slimani qui a été choisie. Une voix et une plume qu'on connaît et qu'on aime ici à France Inter.
Oui, choisir Leïla Slimani, c'est choisir une présidente plus jeune qu'Emmanuel Macron. Bon, présidente du Livre Inter, d'accord.
Ça la fait sourire, hein, elle rentre dans le
studio
à l'instant.
C'est choisir une femme libre. Leïla Slimani, c'est dans Le Chagrin de l'Ogre, Chanson douce, Sexe et mensonge, une femme qui écrit sur ce que c'est qu'être une femme. La garde d'enfants, plus jamais on ne confiera ses enfants sans avoir peur, la sexualité, et avec ces thèmes-là, elle est primée et elle est aimée du grand public. Leïla Slimani écrit juste et parle clair aussi. Une femme libre, c'est utiliser pleinement le pouvoir de l'écriture sans peur, pas pour provoquer, mais en osant. Libre, c'est refuser d'être assignée à une identité, à une origine, à des conformismes. C'est très important de dire ça aujourd'hui. Et puis surtout, sa liberté est joyeuse, quoi. Elle est gourmande.
La présidente s'est fait, enfin elle sera avec nous dans quelques minutes au micro de Nicolas Demorand. Elle vient d'entrer, je la salue dans ce studio. Bonjour Laïla Slimani.
Bonjour.
Maintenant, c'est un jury qu'il vous faut, Eva Bettan, et là c'est le moment d'en appeler aux auditeurs d'Inter.
Alors chaque fois je vous dis pareil, écrivez-nous une vraie lettre.
Mais c'est
ça
pas
veut
grave,
dire quoi une vraie lettre?
Ouais.
Une vraie lettre, vous n'en écrivez plus dans votre vie.
Non.
C'est fini, il y a des mails. Et encore, vous pouvez une écrire par mail, mais par mail ça va être aussi une vraie lettre. Il faut qu'on vous connaisse. Vous allez nous parler de vous, vous allez nous dire les livres que vous aimez. Il n'y a pas de tirage au sort, toutes les lettres sont lues. On divise la France en grandes zones, si vous voulez, et chacun d'entre nous va lire une zone et va présélectionner 5 lettres. Nous sommes 24 à lire, puisqu'il y aura 24 jurés à l'arrivée. Et puis, on va se réunir, on va débattre de ces lettres et on va voter. Donc, il y a tout un processus. Donc, vraiment, vos lettres sont respectées. Elles sont aimées, elles sont disséquées. Voilà. Donc, écrivez. Je vous dis tout de suite, c'est plus dur que de réussir à l'ENA. Parce que l'an dernier, il y avait 5433 candidatures.
Et combien ?
24. Quoi qu'il arrive, 24, mais ça fait rien, ça vaut le coup. Et puis vous verrez, il se passe un truc formidable pendant Livre Inter, c'est que il y a une sorte d'intimité qui naît par le biais des livres, il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose.
Merci Eva Bettan, le vainqueur sera proclamé le 4 juin. L'an dernier, c'est Jean-Baptiste Delamo qui avait été récompensé pour son livre Règne animal. Si vous n'avez pas tout noté, et parce que vous écoutiez avec passion comme nous Eva Bettan, pas de panique, les infos, le formulaire pour candidater sont dès maintenant sur franceinter.fr. Nicolas, vous savez tout.
Merci Marc Fauvel.